Bonsoir, M. Truchon.
Bonsoir.
La semaine dernière, nous avons discuté, nous avons échangé un peu sur la définition des termes de la sixième béatitude, la très grande béatitude des cœurs purs. Et j'ai réservé une question qui, à mon avis, est très importante. Et la voici, elle concerne les affirmations absolues et souvent exclusives qu'on fait dans le cadre d'une religion ou d'un enseignement donné, comme si d'autres croyances ou d'autres valeurs n'existaient pas. Alors donc, il est dit... Le seul chemin pour avoir le cœur pur, c'est la foi au Christ. Vous savez comme moi, M. Truchon, qu'il y a des milliers, des millions de cœurs purs, des cœurs purs véritables qui ne croient pas au Christ. Alors où est donc la dimension écuménique dans cette béatitude? Où est-ce que la tolérance et l'écuménisme sont des concepts qui n'existaient pas encore au temps du Christ?
Oui, l'affirmation est assez ouverte et assez générale. Peut-être qu'on pourrait en reparler un autre moment d'une façon plus explicite, en particulier dans la béatitude des artisans de paix. Mais il ne faut pas fuir une question nécessairement qui est posée en disant ben, « ça sera toujours dans l'autre béatitude qu'on n'a pas vue » alors ou dans celle qu'on a vue donc est un peu tard. Alors ça ne marche pas comme ça. Alors c'est évident qu'il faut que je réponde à cette question-là d'une certaine façon.
Merci.
À la lumière d'où nous sommes actuellement. Alors c'est évident que le plan de Dieu, là, c'est de construire l'homme. Et l'homme est universel. Ce que je veux dire par là, c'est que tout homme sur Terre se ressemble dans son fondement. Encore une fois, avoir peur en anglais ou en français, c'est avoir peur. Alors, autrement dit, la valeur d'une religion réside dans la valeur de l'homme qu'elle produit. C'est-à-dire que plus elle produit un homme humain, plus cette religion-là est divine et est à qualité divine. Alors, si par principe, nous, chrétiens, disons que c'est le Christ qui est Dieu lui-même devenu homme, c'est évident que sans Dieu, il ne se fera jamais un homme et que sans le Christ, vu que le Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme, qu'il n'y aura jamais un homme qui deviendra un homme sans le Christ. Alors, c'est évident que pour nous, chrétiens, le Dalaï Lama qui embrasse Jean-Paul II, puis que Jean II embrasse, c'est pas Jean-Paul II l'embrasse pas en vue d'en faire un chrétien. Mais il a des fruits de l'esprit dans cet homme qui est bouddhiste, des fruits tels qu'il y a le prix Nobel et qu'il est tellement humain que moi, il me fascine. Ma femme le sait, j'aime Dalaï Lama. J'en aime d'autres aussi, mais peut-être moins parce que probablement je connais moins. Mais les fruits de l'esprit dans cet homme, je les vois facilement. Quand j'arrive à la doctrine, ben là, je reste chrétien. Ça m'aide même à comprendre la sienne et ça m'aide aussi à approfondir la mienne. Alors, mais avant d'arriver à tout ça, il faut devenir soi-même, parce que sans ça, on n'a pas de critères. Alors, le critère de vérité d'une religion, c'est la qualité humaine qu'elle promeut et qu'elle révèle. Et alors, automatiquement, elle révèle aussi une image de Dieu. Et plus cette image de Dieu-là est pure et forte et une et grande, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, va sans dire, eh bien, plus cette religion participe à des qualités de vérité et est utile à chaque homme, à sa manière. Alors, au fond, chaque homme est un charisme pouvant montrer Dieu, pouvant montrer une qualité de Dieu. Par exemple, moi, ce qui m'a aidé à réapprendre le jeûne et à le découvrir, ça a été l'Anza del Vasto, qui est un disciple de Gandhi. Ça n'a pas été le Dalaï Lama, ça a été le disciple de Gandhi. Mais je le fais en chrétien. Alors, par exemple, quand je fais les méditations à technique bouddhiste, je les fais en chrétien. Et ici, ce serait peut-être le temps de dire qu'il y a un livre de méditation qui s'appelle Sadhana, S-A-D-H-A-N-A, qui est d'Anthony de Mello, qui est un bon jésuite, qui a fabriqué une maison de méditation à Mandchourie et qui est aux éditions Bellarmine. Là-dedans, on a à peu près une couple de centaines de méditations. Mais évidemment, ce ne sont que des moyens, parce que tout ça, c'est pour devenir soi-même. Et qu'est-ce que nous sommes soi-même? Ben, nous sommes un lieu de Dieu, une puissance de recevoir Dieu et de remontrer Dieu et de devenir nous-mêmes. Autrement dit, devenir nous-mêmes dans le christianisme, c'est pas disparaître, c'est pas devenir un tout, c'est de me réaliser remont à 100%.
Alors, je reprends la citation. On pourrait donc dire « Le seul chemin pour avoir le cœur pur, c'est la foi en Dieu qui, par hasard, pour nous, s'incarne dans le Christ. »
Ben, pas par hasard. Moi, je crois pas au hasard, en ce sens que le hasard, c'est un mot pour expliquer notre ignorance.
Alors, je reprends. Qui, par choix, dans notre cas, s'incarne dans le Christ.
Oui, mais encore là, par providence. C'est Dieu qui voulait son petit remont dans le christianisme. Alors, moi, j'y peux rien, je suis bien content. Ben, j'y peux rien, je peux toujours refuser. Mais je suis venu au monde de 15 enfants, il n'y avait pas de pelule, j'en suis bien content. Mes parents pensaient que c'était fini, rendu à 14. Bon, au bout de 5 ans, il y en a eu un autre, mais appelait le petit perdu. Mais tout ça, ça m'a aidé à me retrouver. Parce qu'on va le dire, à un moment donné, comment ça commence, cette affaire-là.
En citant le prophète Jérémie, vous affirmez qu'entrer en relation avec Dieu, c'est risquer son cœur. Voulez-vous dire qu'on risque de le perdre? La phrase est formulée comme si quelque chose pouvait tourner mal. Mais vous allez me répondre, j'en suis sûre qu'avec Dieu, on a toutes les garanties, c'est ça?
Ouais, ben oui, mais c'est qu'on risque, c'est qu'on a tellement peur de se perdre qu'en se donnant à quelqu'un, on a peur qu'on ne se retrouvera pas. Mais c'est là qu'on va se retrouver. C'est dans les yeux d'un autre qui nous aime vraiment qu'on se retrouve. Et qu'on vient au monde même, qu'on existe. Il y a des personnes, c'est comme une petite souris qui marche le long du mur, une petite erreur ambulante. Ils ont honte d'eux autres. Ils disent jamais je. Ils écoutent tout le monde. Ils obéissent à tout le monde. Au fond, ils n'existent pas. Ils obéissent même pas, dirait saint Thomas d'Aquin. Ils n'existent pas. Ils n'ont pas de poids. Quand ils parlent, ils répètent un autre. Les autres, ils ne parlent jamais d'eux-mêmes. Ils vivent à rien. Ils parlent. Ils ne sont pas qui ils sont, tout ça. C'est pas le plan de Dieu. Ça, c'est d'être un cadeau en vacances. C'est pas ça, là. Alors, se risquer, oui, on se risque quand on aime quelqu'un, bien sûr qu'on se risque. Bien sûr qu'on se risque quand on risque de croire en Dieu, mais quel beau risque. C'est le voyage de noces assurées permanent, parce que Dieu, lui, nous aime dans la vérité. Et quand nous faisons quelque chose de mal, il est miséricorde infinie. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que tout ça va passer par l'acceptation inconditionnelle de Dieu qui m'aime. Mais qui m'a rêvé de toute éternité comme étant une pierre merveilleuse et précieuse que jamais un péché ne vient salir dans son regard. Alors, semer dans le regard de Dieu, c'est la lumière.
Comme pour les autres béatitudes, vous affirmez qu'un cœur pur ne peut s'obtenir par l'homme qui peut simplement le désirer ou, je dis bien, en constater le besoin. L'homme ne peut même pas savoir jusqu'où il est impur dans son cœur. Pour cela, il lui faudrait voir son cœur tel qu'il est, c'est-à-dire accepter son impureté, vouloir changer et surtout être assez pur pour se voir lucidement dans son impureté. Mais c'est un cercle vicieux, monsieur Touchon. Autrement dit, c'est à n'y rien comprendre.
Oui, c'est impossible par soi-même renfermé d'un garde-robe. Alors, c'est évident que c'est impossible. L'amour, on peut le désirer, mais on ne peut pas se le payer. C'est évident. Alors, il faut que quelqu'un nous aime et que finalement, quelqu'un croie en nous. Et encore, je le redis, il y a toujours quelqu'un quelque part pour nous qui a un regard pour nous accueillir et nous faire nous retrouver. Parce que c'est évident que se retrouver pur dans l'être qui nous aime, c'est pouvoir guérir. Parce que toutes les thérapies, encore la semaine passée, j'écoutais les histoires de thérapie à la télévision, parce qu'ils sont très bien faites. Au fond, c'est l'amour de soi qui est toute la grande thérapie. De retrouver une image valeureuse de nous-mêmes, c'est tout ça. Parce qu'on la perd dans une expérience d'amour qui, au fond, comporte des manques. Et à ce moment-là, on se dit, ben, c'est pas en moi que tu croyais, c'est pas moi que tu voulais, et le reste, le reste, le reste, et on est dessus. Alors, la thérapie commence par la vérité, mais la vérité commence par quoi? C'est par un être qui nous redonne notre dignité, qui nous dit, ben voici des moyens par qui tu peux redevenir toi-même. Et là, tu retrouves la liberté. Ben, une fois que tu as retrouvé ta valeur et ta liberté, ben tu cherches quelqu'un à qui la donner. Et là, c'est l'amour. Alors là, tu as une liberté libérée.
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Galilée. Ce soir, nous poursuivons l'étude de la sixième béatitude. Mon invité est M. Raymond Truchon, professeur de théologie à l'Université Laval. À ma mort, je serai à ton image, mon Dieu, devenu tout cœur, des pieds à la tête, c'est-à-dire que mon être sera pur. Au contraire des autres béatitudes qui peuvent s'actualiser graduellement, vous semblez laisser entendre, M. Truchant, que la pureté de cœur, c'est une gratification, une attribution automatique uniquement au moment de la mort, indépendamment de son âge ou de sa condition. D'abord, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas atteindre à cet état de pureté avant la mort? Pourquoi est-ce que la vraie pureté du cœur ne pourrait s'actualiser, je dis bien, qu'au moment de la mort?
Oui, d'abord, il faut prendre attention que cette béatitude-là est possible maintenant, parce que là, d'abord, ça serait bien décourageant de nous donner une promesse qui nous frustrerait jusqu'à la mort. Donc, il faut déjà un contentement et un processus de paix et de bonheur. Ce processus-là, c'est de devenir justement de plus en plus nous-mêmes. Mais comment devenir nous-mêmes? Nous allons, à un moment donné, attaquer le fonctionnement de cette béatitude-là. J'ai encore hâte que ça arrive, là. Alors, là, ce qui nous fait nous arriver à nous trouver nous-mêmes, c'est la connaissance de nous-mêmes dans un être qui nous aime et qui nous accueille, et en voyant cet être lui-même qui devient un visage de nous. Ça, c'est une phrase, là, qui vaut plusieurs dollars, là. Il y a du stock dedans, là.
Allons-y.
Alors, d'abord, me trouver dans un être qui m'aime, c'est-à-dire qui m'accueille, que je peux lui dire ce que je suis dans des choses négatives, des choses positives, et ça ne le dérange pas, ça ne nuit pas, ça n'embrouille pas son regard sur moi, ça ne détruit pas son image de moi, l'image qu'il a de moi, et au contraire, il favorise toujours la construction toujours plus exacte de cette image, de telle sorte qu'à un moment donné, je me sens bien chez lui, je me sens bien en lui, je me sens bien par lui, je me sens bien avec lui. Et autrement dit, je suis en train de me découvrir, donc d'enlever ce qui m'empêchait de me voir. Mais cette connaissance-là étant le moyen par où je deviens moi-même, plus cette connaissance-là sera parfaite, plus je deviendrai moi-même, ce qui arrivera dans la connaissance face à face avec Dieu, où la lumière sera totale. Cette lumière totale que je recevrai de Dieu sur moi sera d'une beauté tellement grande que ça va être terrible.
Vous affirmez, sont purs uniquement ceux qui se savent incapables de se sauver, de devenir par eux-mêmes fondamentalement. C'est la seule dépendance qui rend vraiment libre et authentique. Qu'est-ce qui vous permet de faire une telle affirmation, M. Truchon? Oui. Comment est-ce qu'une dépendance pourrait nous rendre libres?
Oui, on revient à la béatitude des pauvres, parce que les béatitudes, on n'en sort pas. Alors, c'est évident que quand on rentre dans une, on approfondit l'autre, même si on l'a déjà vu, puis c'est passé dans le programme. Alors, c'est un voyage constant. C'est évident que, voici, c'est que plus on voit rien, plus on pense tout connaître. Plus on connaît rien, plus on pense tout maîtriser. Il s'agit de monter dans l'échelle des responsabilités pour se découvrir notre impuissance. Seul celui qui a l'orgueil, qui est une cataracte dans l'œil de la conscience et de l'esprit, peut arriver à penser qu'il fait tout de même et qu'il maîtrise tout. Plus nous faisons l'expérience de Dieu, plus nous découvrons notre impuissance à faire la création, à la diriger, à orienter les peuples, à les orienter surtout vers un succès, surtout quand ils marchent en sens inverse. Alors, plus nous accédons à Dieu, plus nous accédons à un ministère de prière. Mais cette prière-là, cette croyance en Dieu qui peut tout en nous et qui nous aime, nous libère de nos angoisses, nous libère de nos fantasmes destructeurs, nous libère de nos peurs, détruit notre culpabilité, nous fait même vivre dans le présent, parce que ayant tellement confiance en lui, dans sa miséricorde, que nous pouvons oublier le passé comme mauvais et l'avenir comme impossible ou l'avenir comme décourageant. Au contraire, nous pouvons, par l'espérance, nous débarrasser du futur et vivre le présent pour préparer le futur et profiter du passé qui nous a instruits. Alors, la foi fait vivre dans le présent, c'est pas une fuite. C'est un acte de conscience qui fait savoir, nous découvrons là, un jour nous en parlerons davantage, là, l'autre session probablement, pas l'autre session mais l'autre émission, la relation entre foi et science. Foi et science, c'est comme un orchestre, tantôt c'est le violon qui joue, tantôt c'est le violoncelle, tantôt c'est la science, tantôt c'est la foi, il ne faut jamais séparer ça. Ils vont ensemble, ils s'aident l'un l'autre, mais l'un va plus loin que l'autre, et l'un est indispensable à l'autre. Alors, c'est comme la raison et la foi, il ne faut jamais séparer ça. Si la foi nous fait aller plus loin, c'est bien sûr, c'est nécessaire, mais la raison est toujours là pour, je dirais, bénéficier des connaissances que la foi a apportées. Alors, on revient à votre question.
Oui.
Qui était?
Un petit instant que je la retrouve. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut affirmer que sont purs uniquement ceux qui se savent incapables de se sauver, de devenir par eux-mêmes fondamentalement, Et c'est la seule dépendance qui rend vraiment libre et authentique. Je vous demande comment une dépendance pourrait nous rendre libre.
Bon, plus l'être à qui on fait confiance est puissant, plus il nous aime en vérité, plus nous pouvons lui faire confiance. Plus nous lui faisons confiance, plus il nous guide vers la réalisation de nous-mêmes. Alors Dieu est l'être qui peut le mieux nous réaliser, non seulement pas contre notre liberté, mais en nous faisant naître dans cette liberté, en nous faisant la retrouver si on l'a perdue, et en la rendant d'une puissance quasiment divine pour, je dis d'ailleurs divine, oui, par la grâce, pour participer à cette fabrication de soi-même.
À ce même sujet, je reviens là-dessus, vous citez Jésus lui-même qui aurait affirmé « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et vous ajoutez « Nous ne pouvons même pas vouloir ». Si on ne peut rien faire sans le Christ, si on ne peut même pas vouloir, alors où est notre liberté? À quoi bon travailler, acquérir de meilleures dispositions? À quoi bon essayer?
Oui, puis je suis bien content qu'il en soit ainsi à part de ça, parce que je peux dormir à toute heure. Si sans Dieu je peux rien faire, j'en suis bien content, parce que lui, ce qu'il fera, ce sera parfait. Seulement que ça ne m'enlève pas à moi ma créativité, ça me la donne. C'est que je suis co-rédempteur, co-créateur, co-réalisateur de la, du dessein de Dieu. Je suis l'ami de Dieu, il compte sur moi, je suis les mains de Dieu, les yeux de Dieu. Évidemment, il y en a d'autres, là, il ne faut pas partir en peur. Mais quand même, il a besoin de moi, il m'a voulu, il m'a rêvé de toute éternité. Alors, ma liberté vient justement de ma foi en lui. Et toujours, une liberté vient de la foi, mais elle vient aussi de l'amour. Autrement dit, pour devenir libre, il faut d'abord faire ce qui est obligatoire. Mais où trouve-t-on la force de faire ce qui est obligatoire quand on n'était pas encore libéré? Dans la promesse de celui qui nous le demande. Alors, arriver à recevoir tout de Dieu, c'est de pouvoir en lui tout permettre que tout me réalise et que tout me rend service, que tout me construit.
J'ai une question que je trouve très belle parce que la prémisse me paraît tellement rassurante. Vous affirmez que la foi délivre le cœur impur des freins qui l'empêchent de voir ses besoins profonds et ses péchés. Et vous poursuivez en disant que le premier frein que le cœur desserre, c'est l'angoisse profonde. Ça me paraît tellement rassurant, mais expliquez-moi un peu comment ça fonctionne, comment la foi arrive à éliminer l'angoisse, et de quelle angoisse est-ce qu'on parle?
Alors là,
on passe au fonctionnement.
Oui, je vois que vous attaquez le fonctionnement, mais je dirais que c'est par cette confiance-là, il faut aller dans le credo, et il faut découvrir le credo pour la découvrir. Alors là, on serait prêt à attaquer le premier article du credo qui va être le déclenchement du fonctionnement profond et irréversible de cette béatitude.
Chers auditeurs, je vous rappelle encore une fois que vous êtes à l'écoute de Radio Galilée et nous en sommes toujours à la sixième béatitude, la très belle, la très grande, la merveilleuse béatitude des cœurs purs. Monsieur Truchon, je pense que vous avez hâte de nous reparler, de continuer de nous parler du fonctionnement.
Oui, parce que j'ai hâte d'arriver au déclencheur. C'est ce qui a produit un boom en moi. J'ai hâte d'arriver à ça parce que... Alors, commençons. C'est quoi qui m'est arrivé, là? Bien, moi, j'ai des bons parents, c'est sûr, j'avais des bons parents. Bon. Puis, on était 15, puis il y avait des troubles aussi dans ma famille. On avait trois alcooliques, on avait des problèmes. Bon. Puis, moi, bien, je cherchais la vérité. À un moment donné, je trouvais que mon père, il aimait plus mon neveu que moi. Il me le disait pas qu'il m'aimait. Il nous le disait pas trop qu'il nous aimait. Il avait la misère à le dire parce que son père lui-même lui avait pas assez dit probablement, tout ça. Alors, c'est quoi qui m'est arrivé pour arriver qu'un déclencheur semblable? C'est que un jour, là, j'ai réalisé que mes vrais parents, là, c'était pas mes parents. C'était Dieu lui-même. Et ça m'est devenu avec une évidence. Alors, je savais que mes parents étaient mes parents, mais je disais non. Ils ont mélangé deux petites gouttes d'eau chaude. C'est sûr qu'ils ont fait quelque chose. Dans ces deux petites gouttes-là, il y avait ce qu'il fallait. Bon, OK, ils ont fait quelque chose. Puis, même les premiers de la famille, peut-être qu'ils ont été engendrés même dans une chambre à coucher où il n'y avait pas de lumière. Ils n'étaient pas inconscients. Mais au fond, là, nous sommes au monde parce qu'il y a des gens qui ont aimé faire l'amour. Souvent, c'est l'instinct qui déclenche l'affaire. Et papa, il aimait ça, probablement. Et d'ailleurs, oui, je crois. Ma mère le disait. Et c'est pour ça qu'on était 15. Elle pensait d'être arrêtée à 14, mais ça n'a pas arrêté.
Mais qu'est-ce que ça change, les circonstances?
Bon, c'est que ça change, c'est que ça m'a aidé à découvrir. Au fond, ma mère me disait, bon, j'étais un petit perdu. Ça ne veut pas dire qu'elle ne m'aimait pas. Mais à un moment donné, ça me forçait à aller plus loin. À un moment donné, j'ai dit, c'est Dieu qui est mes parents. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? Va vous dire ce que j'ai découvert, et je vais tirer de là les principes de la béatitude, parce que je les ai retrouvés dans la Bible, ces principes-là.
Les principes du fonctionnement de la
béatitude. Les principes du fonctionnement de la béatitude. Alors, c'est quoi que j'ai découvert? Le premier article du credo. C'est marqué, il y a trois éléments fondamentaux dans le credo. Il y a « je crois en Dieu », « je », d'abord, un « je ». « Je », c'est moi, ça. C'est vraiment ça. Bon, « je ». Tout le monde à l'Église dit « je ». On ne dit pas nous autres, dans le credo latin, on dit « je ». OK. Bon. Alors, chacun dit « je ». Bon. « Je crois », c'est-à-dire quoi? Je donne ma confiance, je donne mon cœur, je fais confiance. À qui? À Dieu. À Dieu? Oui, à Dieu. Dieu, c'est qui? Ben, c'est l'être tout-puissant. Bon. Évidemment, s'il n'est pas intelligent, ben, ce Dieu-là, je tire sur la chaîne puis je m'en débarrasse. Hein? Alors, il est intelligent. Il est tout-puissant. Il est très intelligent. Et c'est lui qui me met au monde, et je retrouve dans Éphésiens 1, 3, chapitre 1, 3 à 7, que Dieu m'a rêvé de toute éternité. Mais c'est-tu possible? Oui, c'est possible, c'est marqué dans la Bible. Là, à ce moment-là, j'avais découvert la Bible, tout ça, c'est évident. Alors, mais j'ai découvert ça en moi-même, que je suis un acte de Dieu. Autrement dit, là, j'ai réalisé avec une évidence terrible que moi, là, si je suis là, c'est parce que Dieu y pose un acte qui fait que moi, je sois moi.
Indépendamment de la volonté ou de la conscience de vos parents.
Absolument. C'est-à-dire indépendamment. Non, il n'a eu besoin. Parce que si mes parents avaient été en vacances séparés, ils ne seraient pas là, là. Là, on tombe dans des futuribles philosophiques qu'on ne découvrira jamais.
Ce que vous dites, c'est qu'ils étaient des instruments.
C'est évident que... Ben oui, c'est évident. C'est toute là la providence. La providence n'arrive pas dans ce qui peut arriver, elle arrive dans ce qui arrive. Alors, c'est évident que moi, je suis là. Alors, si je commence à analyser s'il n'avait été pas là, alors là, je tombe dans l'hypothèse, on n'en sortira pas, mais je suis là. Alors, l'important, c'est de découvrir pourquoi je suis là. Prenez un enfant, par exemple, le principe de causalité en science, c'est ce qu'il y a de plus près, c'est ce qu'il y a de plus sérieux, c'est ce qui fait que la science existe. Prenez un enfant, par exemple, à un moment donné, il échappe une fourchette. En même temps, sa tante Mathilda rentre. Bon, il y a 4 ans. C'est qu'il va faire? Il va échapper à la fourchette encore, puis voir si sa tante rentre encore, quand elle ne sera pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a deux principes qui nous font connaître, qui nous font apprendre. Un, c'est il y en a trois avec l'identification, l'imitation, là. Mais il y a un premier principe, c'est l'association. Alors, en échappant une fourchette, sa tante rentre. Alors, lui, il ne sait pas si c'est à cause de la fourchette qu'elle rentre, sa tante. Il ne sait pas. Alors, quand elle ne sera pas là, il échappe la fourchette, puis regarde si elle rentre. Elle ne rentre pas. Ça ne dépend pas de la fourchette. Mais si à un moment donné, par exemple, il va ouvrir la porte, puis la poignée rouvre, puis sa tante rentre, là, il va dire, ben, c'est quelqu'un qui rouvre la porte. Alors, c'est le principe de causalité. Un enfant de 4 ans, c'est ça. Ben, ce qui est de valeur, c'est que des fois, on oublie ça. Alors, on se fie plus aux horoscopes qu'à notre raison, puis à notre science, puis au bon sens. Alors, c'est pas en rêvant d'un char qu'à un moment donné, en sortant dehors, je vais le trouver devant ma porte. Il faut qu'il y ait une usine qui le fabrique. Prenez les gros buildings à New York. C'est pas en tirant des roches n'importe comment que ça se fait, ça. Puis quand un char couche avec une chatte, c'est rare qu'il sort un orignal. Autrement dit, tout ça, ça se tient dans des causalités, là. Alors, moi, je suis là, là. C'est pas par hasard. Il y a quelqu'un qui m'a bâti, qui m'a rêvé, qui m'a pensé, qui m'a désiré, qui est tombé en amour avec moi avant même que j'existe, puisque j'ai commencé en 1932. Parce qu'en 1932, le 7 septembre, vers 10h20 du soir ou du matin, j'ai pas pu le savoir, je tombais à terre, c'est-à-dire, je suis tombé dans le dehors de ma mère. Alors, je n'en ai même pas eu conscience. On me l'a dit après l'heure puis la date. Puis c'est le baptistère qui fait ça. Alors, de toute façon, ce qui est arrivé, c'est que j'ai réalisé que si moi, je suis là, Dieu est là. Donc, quand je m'ennuie, j'ai rien qu'à me toucher, puis je touche Dieu parce que, ben, j'y touche, une façon de dire, il est invisible. Mais il est là dans moi, plus que moi, parce que sans lui, je ne serais pas là.
Parce que vous en êtes la manifestation.
J'en suis l'acte. Je te regarde, là, puis t'as la preuve que Dieu est là. Si t'étais pas là, je pourrais en douter, mais moi, j'ai rien qu'à me toucher, ça fait pareil. Alors, c'est évident, je dis pas pareil, non, pareil entre guillemets, parce que c'était pas pareil à moi, mais quand même. Alors, je touche à la table, je suis rendu que je touche à tout de même. Puis moi, qui est un toucheux par nature, ça va bien, hein? Parce que moi, j'aime voir les fonctionnements des choses, j'aime voir d'où ça vient, j'aime voir où ça va. Et ça, ça a été le déclencheur. J'ai commencé à croire en moi, j'ai commencé à m'aimer, j'ai dit « Dieu, il y a de la valeur, bien sûr, moi aussi j'ai de la valeur ». Là, je me suis garoché en Dieu, au fond, je me suis garoché en moi, puis finalement, j'étais avec lui. Puis j'en doute pas parce que je suis là. Alors pour moi, là, c'est relié à un principe de causalité. Par exemple, en science, c'est quoi qu'on fait? Si on veut savoir de quoi vient quelque chose, le chercheur, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève quelque chose, puis il regarde si la chose disparaît. Si la chose disparaît, il dit « ça y est, ça existe à cause de ça ». Si ça disparaît pas, il cherche ailleurs, il enlève d'autres choses. Alors, c'est comme ça aussi que le jeûne, entre autres, pourrait être un exercice de connaissance de soi, peut être un exercice aussi d'apprentissage d'amour, un exercice de maîtrise de nos instincts, et finalement, une manière de faire de se développer en nous les dons du Saint-Esprit. Donc, premier élément déclencheur, premièrement, moi, Raymond Truchon, je...
crois en Dieu.
Oui, je crois en Dieu tout-puissant, c'est-à-dire qu'il ne peut pas me manquer. Il ne manquera jamais de matériel. Il manquera jamais de, il n'y arrivera pas un gros problème. D'ailleurs, le mot créateur en hébreu, barak, veut dire justement que Dieu est un patenteux, un inventeur. Quand il arrive un problème, il est tout content, il invente d'autres choses. Alors, il n'est jamais poigné par un problème, il invente tout le temps quelque chose. Alors, Dieu peut me réussir, il est tout puissant. Deuxièmement, il est intelligent. Il est pas comme nous autres, il fait rien que ce qu'il aime. Donc, il m'a aimé avant de me faire parce que j'étais beau, puis il voulait faire une belle affaire. Puis il voulait faire quelque chose de très beau. Alors, donc, il y a un beau plan sur moi. Je suis un être extraordinaire, l'être qui me pensait est extraordinaire, il est tout puissant, puis en plus c'est mon rédempteur, il peut me guérir, puis ensuite, ben, il veut faire un voyage de noces avec moi qui est éternel.